Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au système magnétique, en particulier à la température d'un système magnétique et à la capacité thermique qui y est associée. Donc quelques mots sur les systèmes magnétiques qui nous intéressent. Donc, on s'intéresse à des assemblées de spin. Le spin est une propriété quantique qui a été mise en évidence par l'expérience de Stern et Gerla il y a bientôt un siècle. Donc, dans cette expérience, un faisceau d'atomes traverse un champ magnétique avec un fort gradient, et le gradient de champ magnétique est censé dévier le faisceau proportionnellement à l'amplitude du moment magnétique. On a constaté dans cette expérience que le moment magnétique était une propriété quantifiée, donc vous voyez ici deux tâches. Donc, dans sa version la plus simple, la quantification ne peut prendre que deux valeurs, ce qu'on appelle le spin 1/2, et donc les deux valeurs sont plus 1/2 et moins 1/2. Donc on va rester dans ce cadre, on va imaginer une assemblée de spin telle que la projection de la valeur du spin suivant une direction ne peut prendre que deux valeurs. Donc la direction qui va nous intéresser, c'est celle d'un champ magnétique extérieur qu'on impose à cette assemblée de spin. On a précisément grand N spin. Parmi ces grand N spin, donc lorsqu'on va mesurer la valeur du spin selon la direction de B, on va avoir soit une valeur plus, soit une valeur moins. Donc on va avoir deux états possibles. Dans l'état plus, on va comptabiliser petit n plus particule, on va aussi réécrire petit n. Dans l'état moins, on va avoir petit n moins particule, donc ça va être le complémentaire, à savoir grand n moins petit n. Et puis la propriété que l'on sait mesurer sur les systèmes magnétiques, c'est l'aimantation. Et donc l'aimantation, c'est défini comme petit n plus moins petit n moins divisé par grand n. Donc ça vaut également 2 petit n moins grand n sur grand n. Donc à partir de là, lorsqu'un moment magnétique est mis en présence d'un champ magnétique, il acquiert une énergie. Une énergie, c'est le produit scalaire entre le moment magnétique et le champ magnétique. Donc ici, on va avoir deux énergies possibles. E plus qui vaut μB, E moins qui vaut moins μB, et donc une énergie totale du système qui vaut N plus E plus plus N moins E moins. Les questions que l'on se pose sur ce problème, ce sont de déterminer donc l'énergie en fonction de la variable d'état petit n. Ensuite, on veut déterminer l'entropie. Et une fois qu'on dispose des expressions de l'énergie et de l'entropie, par les relations de thermodynamique usuelles, on va pouvoir terminer la température. Et on terminera avec la capacité thermique du système. Commençons par l'énergie. Donc on a vu que l'énergie, c'est N plus E plus plus N moins E moins. Et donc l'énergie, c'est pouvoir se réécrire comme... Donc on obtient 2 petit n moins grand n fois μB. Pour l'entropie, on va utiliser la formule de Boltzmann. L'entropie, c'est la constante de Boltzmann fois le logarithme du nombre de micro-états correspondant à l'état petit n. Donc il s'agit de dénombrer le nombre de configurations possibles telles qu'on peut avoir petit n particules orientées suivant plus et grand n moins petit n suivant moins. Et donc c'est un problème de dénombrement de système à deux états. On va obtenir un coefficient binomial petit n parmi grand n. Donc on applique ensuite la formule de Stirling en se limitant au premier ordre. Enfin, pour obtenir la température, on va dériver l'entropie par rapport à l'énergie. Alors, il s'agit d'une dérivée partielle, et cette dérivée partielle s'entend avec des variables constantes. Alors, les autres variables du problème, ici, il n'y en a qu'une, c'est grand n. Alors, la dérivée par rapport à l'énergie peut être remplacée par une dérivée par rapport à petit n. Et donc, en utilisant l'expression de l'entropie, on obtient... Le moins 1 et le plus 1 se simplifient. Et en inversant, on obtient l'expression de la température. Or, cette expression de la température peut être réécrite de sorte à ce qu'on fasse apparaître le rapport des populations, à savoir le petit n sur grand n moins petit n, en fonction de la température. Et là, on voit apparaître le facteur de Boltzmann, qui nous rappelle que la probabilité des micro-états est liée à l'exponentielle de moins l'énergie sur kT. Et on voit bien qu'ici, 2 μB, c'est bien l'écart d'énergie entre l'état plus et l'état moins. Pour finir, il nous est demandé de calculer la capacité thermique du système. Donc la capacité thermique est définie comme la variation d'énergie en fonction de la température. Et donc on peut substituer la dérivée de l'énergie par une dérivée du petit n. À partir du rapport des populations, on obtient l'expression du petit n en fonction de la température. Et donc on obtient finalement la capacité calorifique. On va s'arrêter là pour les calculs, mais avant d'analyser tout ça, on va montrer déjà qu'on peut travailler en termes d'aimantation plutôt qu'en termes de petit n. Donc pour rappel, l'aimantation, c'est 2 petit n moins grand n sur grand n. À partir de là, toutes les expressions qu'on a données en fonction de petit n peuvent être réécrites en fonction de l'aimantation. Et donc d'un point de vue pratique, c'est plutôt l'aimantation qu'on va utiliser sur le plan expérimental. Donc pour l'énergie, on a l'expression suivante. On voit que l'énergie est directement proportionnelle à l'aimantation. Pour l'entropie, on va avoir... Et enfin, pour la température, l'échelle des petits n peut être remplacée par une échelle des petits m. Et on voit que comme petit m, c'est simplement linéaire avec l'énergie, et bien c'est aussi l'échelle d'énergie. Donc à présent, analysons les résultats théoriques qu'on a obtenus. Alors, on va commencer par essayer de tracer l'allure de l'entropie. L'entropie peut être réduite par rapport à k fois grand n, et le petit n peut être réduit par rapport à grand n. Cela permet de tracer l'entropie sur des axes adimensionnés. Donc on sait que lorsque petit n vaut 0 ou le petit n vaut grand n, l'entropie est nulle car il y a un seul microétat possible, le w vaut 1, et donc le logarithme de w vaut 0. On sait également que le nombre de microétats est maximum lorsque petit n vaut précisément grand n sur 2. C'est là où le facteur binomial va être le plus grand, et donc c'est là où on va atteindre le maximum pour l'entropie. Et ce maximum correspond à kn log de 2. Et entre tous ces points, on a une fonction qui est légèrement concave. À présent, petit commentaire, l'axe des petits n, c'est aussi un axe d'aimantation ou bien un axe d'énergie. Et donc ici, on peut aussi écrire énergie. L'énergie est la plus petite lorsqu'on est en 0, elle vaut moins n mu b. L'énergie est nulle lorsqu'on est en 1,5. Et l'énergie vaut plus n mu b lorsqu'on est en 1. Et donc en fait, la courbe d'entropie qu'on a tracée ici, c'est aussi une courbe d'entropie en fonction de l'énergie. Quelque chose qui doit vous interpeller, c'est que d'ordinaire, l'entropie est quelque chose qui augmente avec l'énergie. Pour les systèmes avec des degrés de liberté de type impulsion, et donc qui ont une énergie cinétique, d'ordinaire, si on augmente l'énergie, on augmente le nombre d'états accessibles, et donc l'entropie augmente. Ici, on a une situation très particulière où l'entropie se met à diminuer en fonction de l'énergie, et ça, c'est particulier aux systèmes à deux états, comme les systèmes de spin. La diminution de l'entropie par rapport à l'énergie, ça a pour conséquence que la dérivée de S par rapport à E est négative. Or, la dérivée de S par rapport à E, on a vu, c'est la température. Et donc, on va avoir un domaine de température négative. Et ça, c'est très inhabituel. Donc, traçons la température. À nouveau, on peut choisir des axes adimensionnés, à savoir petit n sur grand n et kt sur 2 mu b. On va constater qu'on a une température qui converge vers 0 lorsque petit n vaut 0 et qui converge également vers 0 lorsque petit n égale à grand n. Et en revanche, la température va diverger parce que la pente ici, le ds sur de vaut 0, donc le de sur ds vaut infini lorsqu'on va arriver en 1,5. Voilà le tracé de la température. On peut faire des tracés un peu plus propres à l'ordinateur. Donc à gauche, vous avez le tracé de la température. Donc vous voyez effectivement qu'il y a ce domaine de température négative avec la divergence en 1,5. À droite, vous avez le tracé de la capacité calorifique. Donc l'expression qu'on a déterminée tout à l'heure, elle est reformulée ici sous un format adimensionné. Et vous constatez que la capacité calorifique présente deux bosses qui correspondent en fait aux températures positives et négatives, telles que la valeur absolue de kt sur 2 mu b est de l'ordre de 1. Et donc ces bosses sur la capacité calorifique sont assez caractéristiques des systèmes à deux états qui ont justement cette inversion de température. Et donc c'est un signe sur le plan expérimental qu'on est face à des systèmes un peu particuliers. Pour finir, quelques mots sur l'application de tout ça. Ce qu'on a vu, les températures négatives ne sont pas que des objets théoriques. Elles ont pu être mises en évidence sur le plan expérimental. La première expérience donc sur des assemblées de spin date de 1951. Et donc ici c'est la référence du papier qui a été publié à l'époque sur le sujet. Quelques mots sur la manière de mettre en œuvre une température négative. Donc concrètement, on va avoir des systèmes qui restent de la matière, donc des atomes. Cette matière a des degrés de liberté qui sont les spins pour le côté magnétique, mais aussi des degrés de liberté qui sont les positions et les impulsions. Et donc pour parvenir à faire une température négative, il faut arriver à séparer la température des spins de la température du reste de la matière, de la température associée au degré de liberté de position. Il se trouve qu'il y a toujours des couplages entre spin et degré de liberté de position, c'est ce qu'on appelle le couplage spin-réseau, mais ce couplage met un certain temps à s'équilibrer, et le certain temps peut atteindre plusieurs secondes. Et donc ce laps de temps est suffisant pour qu'on parvienne à mesurer et à faire des expériences où on traite indépendamment les degrés de liberté de spin et les degrés de liberté de position. Donc on sait manipuler les spins grâce au champ magnétique. Vous avez vu que lorsqu'on impose le champ magnétique extérieur, on change l'énergie. Donc on peut agir sur la température via le champ magnétique. Et donc pour parvenir à des températures négatives, en fait, on va procéder à une inversion de population. Donc on va brutalement renverser le champ magnétique extérieur de telle manière à ce que le petit n devienne le grand n moins petit n et le grand n moins petit n devienne le petit n. Et brutalement, on va passer du domaine où petit n sur grand n est entre 0 et 1,5, du domaine des températures positives, au domaine des températures négatives entre 1,5 et 1. Et donc c'est de cette manière-là qu'on est parvenu à observer des systèmes de température négative. Et donc qui dit température négative dit quelques propriétés complètement inhabituelles, notamment si on s'intéresse par exemple au transfert de chaleur, et bien dès qu'on est dans ces systèmes à température négative, on va observer des transferts inverses à l'intuition ordinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le système de température le plus élevé qui va donner de l'énergie au système de température le moins élevé.